Chateaubriand, extrait du voyage en Italie, le voyage de Naples, Terracine, 31 décembre. Voici les personnages, les équipages, les choses et les objets que l'on rencontre pêle-mêle sur les routes de l'Italie. Des Anglais et des Russes qui voyagent à grands frais dans de bonnes berlines, avec tous les usages et les préjugés de leur pays. Des familles italiennes qui passent dans de vieilles calèches pour se rendre économiquement aux vendanges. Des moines à pied tirant par l'abri d'une mule rétive chargée de reliques. Des laboureurs conduisant des charrettes que traînent de grands bœufs et qui portent une petite image de la Vierge élevée sur le timon au bout d'un bâton. Des paysannes voilées ou les cheveux bizarrement tressés, jupons courts de couleurs tranchantes, corsets ouverts aux mamelles et entrelacés avec des rubans, colliers et bracelets de coquillages, des fourgons attelés de mulets ornés de sonnettes, de plumes et d'étoffes rouges, des bacs, des ponts et des moulins, des troupeaux d'ânes, de chèvres, de moutons, des voiturins, des courriers, la tête enveloppée et à réseau comme un espagnol, des enfants tout nus, des pèlerins de mendiants, des pénitents blancs ou noirs, des militaires cahotés dans de méchantes carrioles, des escouades de gendarmerie, des vieillards mêlés à des femmes. L'air de bienveillance est grand, mais grand est aussi l'air de curiosité. On se suit des yeux tant qu'on peut se voir, comme si on voulait se parler, et l'on ne se dit mot. 10 heures du soir. J'ai ouvert ma fenêtre, oh, les flots venaient expirer au pied des murs de l'auberge. Je ne revois jamais la mer sans un mouvement de joie et presque de tendresse. Gaète, 1er janvier 1804. Encore une année écoulée. En sortant de Fondi, j'ai salué le premier verger d'oranger. Ces beaux arbres étaient aussi chargés de fruits mûrs que pourraient l'être les pommiers les plus féconds de la Normandie. Je trace peu de mots à Gaète sur un balcon à 4 heures du soir par un soleil superbe, ayant en vue la pleine mer. Ici mourut Cicéron, dans cette patrie, comme il le dit lui-même, qu'il avait sauvée. Moriar in patria saepe servata. Cicéron fut tué par un homme qu'il avait jadis défendu. Ingratitude dont l'histoire fourmille. Antoine reçut au forum la tête et les mains de Cicéron. Il donna une couronne d'or et une somme de 200 000 livres à l'assassin. Ce n'était pas le prix de la chose. La tête fut clouée et la tribune publique entre les deux mains de l'orateur. Sous Nero, on louait beaucoup Cicéron. On n'en parla pas sous Auguste. Du temps de Nero, le crime était perfectionné. Les vieux assassinats du divin Auguste étaient des vétilles, des essais presque, de l'innocence au milieu des forfaits nouveaux. D'ailleurs, on était déjà loin de la liberté. On ne savait même plus ce que c'était. Les esclaves qui assistaient aux jeux du cirque allaient-ils prendre feu pour les rêveries des Cato et des Brutus? Les rhéteurs pouvaient donc, en toute sûreté de certitude, louer le paysan d'Arpinum. Néron lui-même aurait été homme à débiter des harangues sur l'excellence de la liberté. Et si le peuple romain se fut endormi pendant ces harangues, comme il est à croire, son maître, selon la coutume, l'eût fait réveiller à coups de bâton pour le forcer d'applaudir. Naples, 2 janvier. Le duc d'Anjou, roi de Naples, frère de Saint-Louis, fit mettre à mort Commadin, légitime héritier de la couronne de Sicile. Conradin, sur l'échafaud, jeta son grand dans la foule qui le releva. Louis XVI, descendant de Saint-Louis. Le royaume des deux Siciles est quelque chose d'à part en Italie. Grec sous les anciens Romains, il a été sarrasin, normand, allemand, français, espagnol, au temps des Romains nouveaux. L'Italie du Moyen-Âge était l'Italie des deux grandes factions, Guelfes et Ghibellines. l'Italie des rivalités républicaines et des petites tyrannies. On n'y entendait parler que de crimes et de liberté. Tout s'y faisait à la pointe du poignard. Les aventures de cette Italie tenaient du roman. Qui ne sait, Ugolin, François de Rumigny, Roméo et Juliette, Othello. Les doges de Gênes et de Venise, les princes de Vérone, de Ferrare et de Milan, les guerriers, les navigateurs, les écrivains, les artistes, les marchands de cette Italie étaient des hommes de génie. Grimaldi, Fregoso, Adorni, Dandolo, Martinzeno, Morosini, Gradenigo, Scalieri, Visconti, Doria, Trivulce, Spinola, Zeno, Pisani, Christophe Colomb, Amerique, Vespucci, Gabata, Le Dante, Petrarch, Boccace, Ariosto, Machiavel, Cardan, Pomponace, Alcellini, Erasme, Politien, Michel-Ange, Perugin, Raphaël, Jules Romain, Dominicain, Titien, Caraggio, les Médicis. Mais dans tout cela, pas un chevalier, rien de l'Europe transalpine. À Naples, au contraire, la chevalerie se mêle au caractère italien et les prouesses aux émeutes populaires. Tancrède et le Tasse, Jeanne de Naples et le bon roi René, qui ne régna point, les vêpres siciliennes, Manzaniel et le dernier duc de Guise, voilà les deux Siciles. Le souffle de la Grèce vient aussi expirer à Naples. Athènes a poussé ses frontières jusqu'à Paestum. Ses temples et ses tombeaux forment une ligne au dernier horizon d'un ciel enchanté. Je n'ai point été frappé de Naples en arrivant. Depuis Capoue et ses délices, jusqu'ici le pays est fertile, mais peu pittoresque. On entre dans Naples presque sans la voir, par un chemin assez creux. On peut, si l'on veut, ne plus suivre l'ancienne route. Sous la dernière domination française, une autre entrée a été ouverte et l'on a placé un beau chemin autour de la colline de Posillip. 3 janvier 1804. Visite le musée. Statue d'Hercule, dont il y a des copies partout. Hercule en repos, appuyé sur un tronc d'arbre. Légèreté de la massue. Vénus, beauté des formes, draperie mouillée, buste de Scipion l'Africain. Pourquoi la sculpture antique est-elle supérieure? Cette assertion, généralement vraie, admet pourtant d'assez nombreuses exceptions. La statuaire antique n'a rien qui surpasse les cariatides du Louvre de Jean Goujon. Nous avons tous les jours sous les yeux ces chefs-d'œuvre et nous ne les regardons pas. L'Apollo a été beaucoup trop vanté. Les métopes du Parthénon offrent seules la sculpture grecque dans sa perfection. Ce que j'ai dit des arts, dans le génie du christianisme, a été triqué et souvent faux. À cette époque, je n'avais vu ni l'Italie, ni la Grèce, ni l'Égypte. À la sculpture moderne, tandis que la peinture moderne est vraisemblablement supérieure, ou du moins égale, à la peinture antique. Pour la sculpture, je réponds, les habitudes et les mœurs des anciens étaient plus graves que les nôtres, les passions moins turbulentes. Or, la sculpture qui se refuse à rendre les petites nuances et les petits mouvements s'accommodait mieux des poses tranquilles et de la physionomie sérieuse du grec et du romain. De plus, les draperies antiques laissaient voir en partie le nu. Ce nu était toujours ainsi sous les yeux des artistes, tandis qu'il n'est exposé qu'occasionnellement au regard du sculpteur moderne. Enfin, les formes humaines étaient plus belles. Et pour la peinture, je dis, la peinture admet beaucoup de mouvements dans les attitudes. Conséquemment, la matière, quand malheureusement elle est sensible, nuit moins aux grands effets du pinceau. Les règles de la perspective, qui n'existent presque point pour la sculpture, sont mieux entendues des modernes qu'elles ne l'étaient des anciens. On connaît aujourd'hui un plus grand nombre de couleurs. Reste seulement à savoir si elles sont plus vives et plus pures. Dans ma revue du musée, j'ai admiré la mère de Raphaël, peinte par son fils, Belle et simple, elle ressemble un peu à Raphaël lui-même, comme les vierges de ce génie divin ressemblent à des anges. Michel-Ange, peint par lui-même, Armide et Renaud, scène du miroir magique.